Et non, ce n'est pas du gloubi-boulga. C'est de l'herbe. De l'herbe.
Bonjour à tous, c'est Dany Baillet, le gourmand d'As, sur Radio MDM 101.1 à Mont-de-Marsan et 93.8 à Banos. Nous allons aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, parler vin, bien sûr. Et comment ne pas terminer ce petit tour de France en parlant du rosé, puisque nous sommes en pleine saison estivale qui redémarre avec tous les espoirs qui nous sont permis sur les terrasses et bientôt dans les salles et bientôt à la plage. Tout un tas de choses qui nous amènent bien sûr naturellement au plaisir de dégustation des vins et l'été au rosé. Donc on va faire un tour de France des différentes appellations, des différents rosés, pour ensuite regarder comment est fait le rosé, quelles sont les différentes méthodes, quelles sont évidemment les régions phares qui le produisent, et ensuite des éléments de dégustation, bien sûr, et quelques accords que nous pourrons voir ensemble, même si bien sûr, naturellement, nous sommes aux antipodes de la dictature, tout ça ce sont des choix personnels, mais quelques accords vous seront quand même proposés. Alors comment dire ? Bien, la France, c'est évidemment le grand pays du rosé, tant en tant que producteur qu'en tant que consommateur. Et sachant que la Provence, bien sûr on en reparlera au long de cette émission, écrase un peu tout sous le soleil bien sûr, mais aussi toutes les autres régions quant à sa production, puisqu'elle nous amène 90% tout simplement de la production de vin rosé en France. Il existe plusieurs types de rosés, bien sûr, on va voir tout ça en détail. Et il s'en produit un peu partout en France, malgré le fait que bon, 90% soit quand même produit dans le sud-est. Donc je vous propose un petit tour d'horizon de la vie en rose, tout simplement. Voilà, ils ont la réputation de tous se ressembler, bien sûr, pour accompagner vos grillades estivales. Oui, c'est un peu vrai, mais avec quand même des nuances à garder à l'esprit pour acheter du rosé, ou peut-être pour peaufiner un accord autour de la table. Les nuances, eh bien, surtout, elles sont liées au mode de production et aussi, naturellement, au terroir, ce que nous appelons, les Français appellent les terroirs, c'est-à-dire les différents sols des différentes régions. Alors, pour comprendre, voyons comment est fait le rosé d'abord, et ce qui nous amènera à comprendre aussi et comment son prix peut s'échelonner, entendons-nous bien, entre 3 et 90 euros, la bouteille, ça fait quand même un écart conséquent. Voilà, alors, première chose à regarder lorsqu'on choisit un rosé, évidemment, surtout que les tendances aujourd'hui sont à fond dessus, c'est la couleur, bien évidemment. Donc on trouvera des rosés du plus clair au plus coloré, du plus clair sachant qu'il est plutôt vinifié d'une façon qui est proche de celle des vins blancs, donc des vins qui seront moins parfumés, mais aussi moins vineux, moins costaud, et ensuite au plus coloré, proche d'un rouge léger, qui peuvent tenir quasiment tout un repas. Bon, on pense bien sûr souvent au clairé de Bordeaux. Alors tout dépend naturellement, pour faire du vin rosé, de la macération, ce qui répond à la question, ben, comment est fait le rosé ? Donc quand on appelle macération la technique d'obtention des rosés, c'est ce qu'on appelle aussi le résultat de la saignée. La saignée, eh bien, il s'agit très simplement, dans 99 cas sur 100, de vins rouges, bien sûr, hein, de raisins rouges qui sont égrappés, donc on enlève la structure la plus ligneuse du raisin qui tient les grains. Ensuite, le jus, ben, c'est du jus blanc, bien sûr, hein, qui est macéré, et selon la durée de macération des baies, des peaux dans le jus, on aura une couleur rosée de plus en plus prononcée. Donc pour avoir des rosés clairs, c'est plutôt la Provence et le Sud en général. Pour avoir des rosés foncés, c'est surtout les Bordeaux avec le rosé le clairé ou les rosés de Loire. Et aussi le Tavel qui a une consonance particulière mais aussi des goûts particuliers mais surtout une couleur un peu plus soutenue que les rosés du Sud. Donc le principe est simple, c'est le même principe que dans le Champagne, très exactement le même. On récolte les grappes, on met les baies ensemble avec le jus dans une cuve que l'on pige, c'est-à-dire qu'on va faire descendre les baies à travers le jus afin de marquer, puisque les tanins contenus qui donnent la couleur sont dans les pots, dans les baies. On va faire mélanger, macérer, de quelques heures à quelques jours, tout simplement, dans le jus. Et plus on laisse les baies, plus le jus est marqué. Donc c'est une technique qui est vieille comme le monde. En fait, beaucoup de gens pensent qu'il y a du mélange dans le raisin, ça n'est pas du tout ça. C'est la technique de la saignée qui est appliquée, qui a un double avantage. D'abord, colorer plus ou moins, selon que l'on laisse les baies dedans, le vin, le rosé. Donc si on le laisse très peu, le rosé sera très clair, comme on souhaite souvent l'obtenir maintenant. Et si on le laisse plus longtemps, il deviendra rosé, quasiment rouge d'ailleurs, si on le laisse aussi plus longtemps. Alors là, l'intérêt, c'est de colorer. Et le deuxième intérêt de la saignée, c'est qu'on retire une partie des jus à peine qu'ils soient colorés. Et l'intérêt, c'est de pouvoir laisser moins de jus avec plus de baies, c'est-à-dire de densifier donc, le raisin qui va rester et de faire des raisins rouges plus foncés, plus pourpres souvent, plus foncés en tout cas. Donc par l'extraction de jus en excès, c'est le principe simple. Ce jus en excès, lorsqu'on a 50 hectos et qu'on veut en obtenir 40, on en retire 10 par saignée, donc c'est-à-dire dès qu'il est à peine macéré, avec une couleur très claire, et on en fait des rosés. Le reste deviendra des vins rouges. Voilà, alors le mélange de rouge et de blanc, ben, existe-t-il? Il est présent dans tous les esprits en tout cas. Il existe, oui, il existe, c'est vrai, simplement mais en champagne, puisqu'avant la deuxième fermentation du champagne, on a le droit de pratiquer le mélange de blanc avec des rouges, sachant que dans la champagne, 90% des cépages sont des cépages roux, c'est le pinot noir et le pinot meunier, on en avait parlé dans une autre émission, et peu, à peu près 20%, ce sont des chardonnays sur la côte des blancs de blanc. Donc c'est bien des jus blancs lors du pressurage, et ensuite, si on veut mélanger avec des rouges, eh bien on le fait avant la deuxième macération. Donc la technique de pressurage, c'est comme la technique pour le blanc, c'est une technique de macération. La saignée, je viens de vous en parler, et donc le mélange qui est quand même moins pratiqué. En clair, les rosés clairs et vineux sont plutôt servis plutôt à l'apéritif. Ça paraît un peu logique, par leur couleur, c'est très agréable, c'est très joli, avec parfois des déformations et des excès, mais souvent, ils sont plus vifs et ils seront plutôt servis avec des poissons ou en aioli, enfin des choses très particulières. Ils ne sont pas vraiment des vins pour faire tout un repas. Et les rosés plus foncés accompagneront plus facilement toutes les grillades et peuvent faire aussi tout le repas d'été. Donc on y pense toujours pour accompagner des saucisses, des merguez, des côtes d'agneau, du poulet sur le barbecue, tout ce qui va au barbecue et qui n'est pas le bœuf. On va dire qu'à part le bœuf, qui mérite quand même autre chose, on peut faire des rosés plus foncés sur tout un repas. Donc voilà ce petit tour, ce petit éclairage concernant la méthode d'obtention des rosés. Voilà, rappelons-nous que 99 fois sur 100, il s'agit quand même de la saignée, c'est-à-dire de l'extraction d'une partie des jus qui viennent d'être récoltés, avant qu'ils ne soient trop marqués par le tanin des peaux. Et donc on les extrait avant d'être très rouges, ils sont rosés de plusieurs couleurs et on les extrait au moment où on le souhaite. En fait, la vinification avec des levures aromatiques, qui se fait dans la vinification moderne, a tendance à exacerber les arômes artificiels exotiques des fruits, bien évidemment, c'est une volonté, hein, par une maîtrise du travail de la chimie, notamment, et on obtient une matière assez creuse et surtout assez diluée. Le problème, c'est qu'à boire, si on y arrive avant la fin d'année du millésime, puisque de toute façon, ce ne sont pas des vins de garde, bien évidemment, mais en plus, ils peuvent être quand même assez lourds et un peu gênants pour l'estomac et pour le foie. Donc attention à ce que nous allons consommer, il existe de belles classifications, n'hésitez pas à vous renseigner. Aujourd'hui, vous trouverez tout, sachant que, je vous l'ai dit tout à l'heure, on va passer d'un prix de 3 à un prix de 90 euros. Donc là-dedans, tous les choix sont possibles. Heureusement, ben, évidemment, hein, certains domaines, avec une vingtaine de crus classés, il faut quand même savoir que la Provence compte 14 très connus et 6 un peu moins connus crus classés de rosé. Et donc, travail à fabriquer des rosés légers, agréables et faciles à boire, et surtout d'assez belles factures. Voilà, donc nous y trouverons bien sûr souvent les cépages phares du Sud, à savoir le Grenache, le Cinsault, la Syrah, cépage le plus aromatique, emblématique du Sud aujourd'hui, le Mourvèdre, qui est un cépage un peu particulier, qui apporte un peu d'âpreté, mais qui est très, très enrichissant dans la palette des fruits qui est recherchée dans les rosés, notamment les clairs, avec souvent une pointe de Cabernet Sauvignon, ce qui est assez surprenant, puisqu'aujourd'hui la vinification du Sud prend en compte des Cabernet Sauvignon, qui est le cépage phare des très grands crus de la rive gauche de Bordeaux, des Médocs notamment, qui donnent la belle structure, la couleur, la tenue et le vieillissement surtout, au grand Bordeaux de la rive gauche. Eh bien, on retrouve du pointe de Cabernet Sauvignon, voilà, pour magnifier ces cépages phares du Sud, avec deux appellations provençales qui m'ont réconcilié, moi, avec la dégustation des rosés. On va dire que c'est le Bélé. Le Bélé, c'est une région qui pratique, qui utilise des cépages autochtones, notamment le braquet, un cépage très local, magnifique, un vieux cépage, et celle qu'on appelle la folle noire. Nous avons dans les Landes et dans le sud-ouest la folle blanche, qui nous donne les plus belles eaux de vie d'Armagnac. Et bien dans le sud-est, ils ont le braquet et la folle noire, qui est un cépage proche du Carignan, qui est très vieux et qui donne une flambée dans le goût, quelque chose d'assez extraordinaire, dans les rosés provençaux. Alors, grande appellation, le Bélé, mais aussi, évidemment, que nous connaissons tous, le Bandol. Alors, ne pas me faire dire ce que je n'ai pas dit, bien évidemment. Il s'agit de vin, naturellement, et non pas de Viagra. C'est du Mourvèdre, entre 20 et 60 à 80% parfois, de ce cépage un peu âpre, bon, qu'on dit un peu âpre dans les dégustations de vin rouge. Pour autant, dans le rosé, c'est normal qu'il y ait une forme d'acidité, un peu d'âpreté, un peu d'astringence. Mais ceux-là peuvent être dégustés à partir de 2 ou 3 ans, les bandoles, car des vins déjà d'une texture plus foncée, hein, à cause du Mourvèdre, bien évidemment, et puis qui supportent un peu le vieillissement, et qui vont se bonifier, ce qui est assez rare dans les rosés, qui ne sont pas forcément, évidemment, des vins de garde. Alors je ferai un petit aparté aussi, personnel, naturellement, car ils se ressemblent beaucoup avec les vins de la Provence, ce sont les rosés corses, avec quelque chose que vous dégusterez sur les très belles tables, donc issu des cépages, de deux cépages, le Nieluccio et le Ciaccarello, bien sûr, j'espère que je l'ai bien prononcé, sinon je vais me faire fusiller, avec le Grenache, bien sûr, naturel, comme cépage principal ou quasi unique. Voilà, Nieluccio et Ciaccarello qui donnent des rosés de très grande tenue, de très très belles tenues, un peu foncées, qui vont tenir tout le repas. Alors, seconde région, bon, c'est Languedoc-Roussillon, évidemment, plus coloré, plus puissant, on a des vins ici, issus du Carignan, issus de la Syrah et du Mourvèdre, comme les autres, mais aussi, travailler parfois de façon un peu différente, alors je m'autorise à faire ça des fois, vous donner deux noms, on pourrait en trouver beaucoup plus, mais qui vraiment pour moi ont fait un travail assez remarquable, dans une maison que je connais depuis très longtemps, qui m'ont réconcilié vraiment avec le rosé. Alors dans le Languedoc, partie Languedoc, ce serait plutôt le Mas Julien, bon il est très connu, hein, vous n'avez pas besoin de mon conseil pour le prendre, vous le trouverez facilement, cherchez vos références sur internet, vous trouverez tout ça, tous les renseignements sur la maison, maison très, très fiable, vieille maison de plusieurs générations qui se sont concentrées sur la qualité des rosés. Et bien sûr en Roussillon, alors là, bon, ils ne sont pas connus que par le rosé, très loin de là. Alors c'est plutôt la Rectorie, ben, c'est une dynastie, la dynastie du docteur Parcé, qui possède un grand mas juste en face du cellier des Templiers de Banyuls, sur mer, avec différents vins de la région, des collioures, et ici donc la Rectorie, qui est le château de ce qu'on appelait les frères, les Barbus, donc c'est là, sont les neveux du docteur Parcé, qui ont ce fabuleux domaine de la Rectorie, travaillé avec un petit mulet, dans la roche, dans la caillasse, sur ces coteaux du Roussillon, avec des rendements extrêmement faibles, des cuvées très très spéciales, un très grand nombre de cuvées spéciales, ce qui est extrêmement rare dans un domaine où on essaye de travailler une cuvée ou deux, mais là, c'est une quinzaine de cuvées que vous y trouverez, qui vont aller d'un accord avec la tomate jusqu'à un accord avec l'anchois, pour vous dire que quand même, ça n'est pas rien. Donc la famille Parcé, la Rectorie, évidemment doublement recommandée. Alors si on regarde donc dans les autres régions, dans le Rhône Sud, ben, se démarque une appellation que tout le monde connaît, une appellation de rosé plus foncé, ce sont les Tavels, que tout le monde connaît, puissants, couleur bien sûr naturellement, et puissance au rendez-vous, grenache noir, bien sûr, mais aussi cinceau, une foultitude de cépages. Le mourvèdre, bien sûr, que l'on retrouve. Le bourboulin, la clairette, avec sur l'assemblage de tous ces vins, avec une dominante quand même de grenache noir. Puissance, mais surtout fraîcheur étonnante. Alors, Tavel, que tout le monde connaît plus ou moins, hein, je pense que ça n'est pas une surprise. Voilà, allez-y, dégustez, vraiment, c'est pour tous les plats d'été, toutes les tables d'été, oui, le Tavel, sans aucune hésitation, voilà, fera le plaisir de tout le monde. Voilà, je vous propose une petite coupure musicale avant de continuer notre périple.
Et oulala, bouteille sur bouteille, et oulala, bouteille à tout de bras. Nous n'allons pas d'ici, d'un salut dans le vade. Nous n'allons pas d'ici, d'un salut de maman. Je prends une femme qui soit belle, au grand danger des cornes à porter. Y aura d'autres amants qui la trouveront belle et me feront cocu, voilà la main foutue. Eh oulala, bouteille sur bouteille, eh oulala, bouteille à tout de bras. Eh oulala, toujours bouteille sur bouteille, eh oulala, toujours le plaisir de l'amour. Je prends une femme qui soit laide, au grand danger, me faudra la garder. Comment la regarder, cette vilaine laide, toujours devant mes pas, ce que je n'aime pas. Et oulala, bouteille sur bouteille, et oulala, bouteille à tour de bras. Et oulala, toujours bouteille sur bouteille, et oulala, toujours le plaisir de l'amour.
Au grand danger d'aller au cabaret, elle viendra me chercher en me traitant d'ivrogne. Tu manges tout mon bien, les enfants n'auront rien. Ah, vas-y, ah.
Eh oulala, bouteille sur bouteille, eh oulala, bouteille à tout de bras. Eh oulala, toujours bouteille sur bouteille, eh oulala, toujours le plaisir de l'amour.
Oh, si je prends une femme qui soit pauvre, au grand danger d'avoir à la garder. Il faudra travailler pour nourrir la famille, travailler tout le jour, la li la li la lo.
Eh oulala, bouteille sur bouteille, eh oulala, bouteille à tout de bras. Eh oulala, toujours bouteille sur bouteille, eh oulala, toujours le plaisir de l'amour.
We'll be right back.
Salut, c'est Lou Gourmandaz, vous êtes bien sur MDM 93.8 Chalosse-sur-Saint, 101.1 Mont-de-Marsan. Donc avant de parler dégustation, je voulais quand même vous signaler, parce que ça existe et parce que c'est quand même très important, certains rosés de la Champagne qui sont produits, qui plus est dans l'Aube, une région qui est souvent décriée par rapport à celle des grandes villes autour des grands crus de Champagne, et qui produisent quand même quelque chose de très agréable, qui peuvent donner un vin très macéré, qui n'est pas rouge tout de suite, qui est d'abord rosé. Et bon, certains vignerons funambulent très très fort, dont un bien sûr, peuvent proposer ce genre de vin. Donc le rosé, le champion du monde des champagnes rosés, pour moi, il s'appelle Olivier Oriot, et il vinifie ses champagnes rosés un peu comme des bourgognes rouges, donc quelque chose d'élaboré, de très élaboré, sachant que si vous laissez le champagne rosé macérer encore plus, vous obtiendrez ce que l'on obtient du côté de Chouilly-sur-Marne, un champagne rouge que j'ai eu une fois l'occasion de déguster, bon, sans grand engouement, mais je l'ai fait quand même. Donc essayez quand même ce vin qui a été conseillé, Olivier Oriot et ses champagnes rosés merveilleux, vin quand même conseillé par monsieur Alain Dutournier sur sa côte de veau épaisse, sur une volaille rôtie ou sur une échine de porc aux épices que vous trouverez dans l'un de ses restaurants, même si ça n'est pas le Carré des Feuillants, dans les trois autres qui sont sur Paris. Alors, autre région, bien sûr, pour le rosé, on va pas s'y attarder de trop, ben, il y a quand même le Sancerre qui produit un rosé dans le Cher, un rosé de Pinot Noir qui peut être assez sympa, d'un rapport qualité-prix peut-être un peu discutable. Et dans la région de Marsannay-la-Côte, donc c'est en Bourgogne, voilà, peut-être à partir du Pinot Noir, quelque chose de pas mal, sans macération, avec très peu de macération, en Marsannay, qui donne un rosé assez sympa. La Loire, bien sûr, dont nous devons de parler, même si moi, je ne suis pas très, très attiré par les rosés doux, demi-secs, qui sont assez spéciaux, qu'on trouve aussi dans la région de Bugey ou dans le Cerdon. Ils sont quand même plus anecdotiques, et je ne vais pas trop m'y attarder. Donc voilà pour ce petit tour des différentes régions concernant la dégustation. Eh bien, en Provence, aujourd'hui, les comités de dégustation se succèdent, et en raison des progrès, naturellement, des rosés, mais surtout et aussi de l'ampleur du marché, qui est de plus en plus importante. Donc, les grandes agences de notation, les plus sérieuses, s'y consacrent régulièrement. Vous pourrez donc trouver de la documentation dans des revues spécialisées, mais aussi, et surtout tout simplement sur Internet. Allez-y, n'hésitez pas, je pense que c'est le meilleur conseil qu'on puisse vous donner. Alors, régulièrement, nous avons des choses. Aujourd'hui, une cinquantaine de rosés ont été sélectionnés par un comité vraiment de super professionnels. Donc, ils sont en Provence et en Roussillon, bien sûr. Mais aussi un peu partout, comme un Sancerre qui a été sélectionné dedans. Et même, voyez-vous, en Pays de Loire, un rosé de Loire. Alors, les meilleurs viticulteurs se passent même quelquefois d'appartenir à des appellations. On les trouve aujourd'hui, donc n'hésitez pas à y regarder. Sous la bannière de l'appellation vin de France, ils ont choisi eux-mêmes de quitter le côté lourdeur des grandes appellations dans lesquelles on est un peu enferré. Ces gens pouvant se distinguer sont partis seuls. Or, je vais en noter 4 ou 5 avant de parler de leur dégustation. Mais la famille Haute, bien sûr, avec aujourd'hui son duo d'Alonne. A-L-O avec un accent circonflexe N-E, du haut d'Alonne, la famille Haute avec deux T, qui est bien sûr très 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 connue. Je reparle encore des Perrins, comme j'en ai parlé la dernière fois, avec beaucoup d'affection, mais surtout parce qu'ils sont adossés aujourd'hui à un domaine qui appartient à l'ami Brad Pitt, le domaine de Miraval, de 70 hectares, rien que ça, qui fait aujourd'hui figure de leader et qui a réconcilié un peu le monde entier avec les vins, mais non peut-être seulement par le nom de Brad Pitt, mais par la qualité des vins distribués. Le domaine de Vialet, donc, dont le propriétaire est malheureusement nous a quittés prématurément, mais bon, qui a une succession assurée, un domaine magnifique. Je vous parlais aussi du Clos de Cibonne de la famille Desforges, parce qu'il faut en parler, c'est très important. Ce sont des gens de grande qualité qui œuvrent depuis 3 générations sur les rosés. Donc Clos Cibonne, n'hésitez pas à aller voir. Et puis surtout à Bandol, bien sûr, très très connu, domaine de la Bégude. La Bégude que nous associons, nous, au nom de la Bécasse. Voilà, pour le savoir, ce que m'ont dit les viticulteurs de Bandol. Alors, comment se passe cette dégustation? Eh bien, on a 2 catégories, on va dire. Plutôt les rosés clair, ceux de l'apéritif, donc au moment où nous avons encore le palais un peu vierge de goût. Qu'est-ce qu'on y trouve? Eh bien, naturellement, des notes assez ciselées d'agrumes. C'est quand même la dominante, donc vin un petit peu acide, c'est logique, un peu comme des blancs. Ils sont vinifiés un peu comme des blancs. Un peu de jasmin, souvent des petits fruits blancs, plus ou moins mûrs. Donc, des fleurs blanches, bien évidemment, c'est très aérien tout ça. Parfois du tilleul, parfois un petit peu même de pointe de garrigue, mais c'est assez étonnant. Donc, pour les rosés clairs, c'est la fraîcheur qui domine, bien évidemment. On y recherche le vin d'apéritif, un vin légèrement acide, un verre acidulé du moins, avec beaucoup de fraîcheur, un vin qui va vous entamer la bouche avec une légère astringence, mais vous préparer à pouvoir passer à quelque chose de plus rond derrière. Donc, fraîcheur, beaucoup de fraîcheur pour les clairs. Pour les rosés, plus foncés, eh bien là on a une palette aromatique un peu plus importante, c'est logique à cause de la macération et donc de la présence de tanins plus importants, mais quand même de la fraîcheur et puis surtout des épices. Donc des agrumes vifs, c'est clair. Des agrumes vifs, c'est toujours du citron, c'est toujours tous les agrumes autour de la famille des citrons, donc de la région. Souvent un peu d'amertume beaucoup plus importante, une amertume plus importante notamment liée au parfum du pamplemousse. Voilà, parfois du fruit rouge, bien sûr, ils sont présents, des fruits blancs, mais surtout les fruits rouges. Ici, on a une note de fruits rouges puisqu'il y a du tanin dedans. Donc très sympa, alors ça, qui peut servir aussi d'apéritif, mais plutôt à boire après un vin plus acide, un rosé plus clair dans un premier temps, dans un second temps pour aller accompagner le plat. Moi, ce serait le conseil que je donnerais, si je devais donner un conseil, du moins un avis, c'est de commencer par les clairs pour l'apéro et ensuite de passer à des foncés pour, à cause de la teneur en tanin, bien sûr, et donc de ce qu'on va y trouver dedans. Et l'intérêt des rosés plus foncés, c'est qu'on peut un peu les attendre. Ils peuvent vieillir. C'est une question qu'on se pose souvent avec les rosés. Dans les clairs, c'est non. Et avec quelque chose dans le bandol, notamment, que je vous recommande si vous avez oublié ça dans votre cave, ils deviennent ce qu'on appelle mort doré. Ça, c'est assez étonnant. Donc, des parfums qui s'oxydifient un petit peu, qui donnent un goût assez étonnant à ces rosés très puissants de Bandol et très foncés. Ils deviennent encore plus vieillards, ils sont très, très beaux. N'hésitez pas, si vous en avez dans votre cave qui a 2 ou 3 ans, vous en trouvez un de 2 ou 3 ans, dégustez. Ce qu'on ne peut pas attendre pour les rosés clairs, on peut l'attendre pour les rosés plus foncés. Alors, pensez que le Roussillon a 14 rosés en cru classé. Pour l'essentiel, bien sûr, à acheter en prenant et en longeant la mer là-bas vers chez les exploitants, parce que c'est quand même très sympa d'aller acheter directement à la propriété en se baladant au bord de la mer. C'est du vin de vacances, ne l'oublions pas. Souvenez-vous aussi que même si le rosé a longtemps c'était décrié, mais le vin de ceux qui n'aimaient pas le vin, voilà, je l'ai aussi pensé pendant très longtemps, certains, on l'a dit, même si ce n'est pas la majorité, ont fait des progrès, ont bien évolué, donc il faut les choisir comme il faut. N'hésitez pas à vous documenter pour éviter les céphalées du lendemain, parce que ça, c'est extrêmement désagréable. S'ils vous laissent un bon souvenir, c'est bien, un mauvais, vous en serez dégoûté pour toujours. Donc, n'hésitez pas à prendre le temps de déguster. Le rosé, c'est la déguste d'apéritif. Et moi, je vous dis à mon tour, à très vite autour de nos piscines, et bien sûr, nos barbecues, et peut-être même de nos tables. Et bel été à vous tous sur nos ondes.